Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Très grand bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec un invité qui va quitter Lyon d'ici quelques jours. Il est en fin de résidence d'écriture à Vézelay, à la maison Jules Roy. Et je suis très heureux de l'accueillir et de le recevoir devant notre micro. Hugo Pavio, bonjour.
Bonjour.
Deux mois de résidence d'écriture à la maison Jules Roy à Vézelay, hein, résidence d'écriture qui se termine finalement à cette extrême fin du mois d'octobre et qui a débuté le 1er septembre dernier. Hugo Pavio, vous êtes surtout un homme de théâtre, metteur en scène, dramaturge, une œuvre écrite théâtrale parue chez, notamment aux éditions de l'Amandier, bien connue, et puis romancier, depuis l'année dernière, avec un premier roman paru aux éditions du Seuil, premier roman qui a pour titre « Les oiseaux rares ». Je pourrais jouer la facilité et me contenter de lire la quatrième de couverture de votre roman, mais finalement, puisque vous êtes devant nous, Hugo Pavio, question difficile, puis-je vous demander de vous présenter à nos auditrices et auditeurs ?
Bien sûr, donc, je suis donc Hugo Pavio, je suis un vieux primo-romancier, puisque j'ai écrit ce roman il y a maintenant, enfin il est paru en janvier 2020. Voilà, et c'est vrai que j'ai écrit une dizaine de pièces de théâtre que j'ai mises en scène pour partie moi-même, puisque je suis metteur en scène et je dirige une compagnie de théâtre professionnelle qui est basée en Aquitaine actuellement. Voilà ce que je peux dire. Je suis aussi traducteur d'espagnol, puisque je suis franco-espagnol, ce qui est aussi une des raisons de ma présence ici, puisque le contenu de mon prochain livre aura trait aussi à la double nationalité, la double appartenance, etc. Et puis, le pourquoi de ce livre, c'est qu'avec ma compagnie professionnelle, j'ai eu loisir, et puis je le fais régulièrement, de mener des projets d'action culturelle dans des établissements scolaires, en prison, auprès de publics empêchés en général. Et pendant une dizaine d'années, je suis intervenu dans ce qu'on appelle un micro-lycée à Vitry-sur-Seine. Un micro-lycée, c'est une petite structure associative à l'intérieur d'un lycée, mais où l'enseignement est différent. Les programmes sont les mêmes, mais donc ce sont des élèves qui ont quitté le système scolaire pour des raisons X ou Y. Ce serait trop long d'expliquer pourquoi. Et la base, la matière première de ce livre, en fait, est partie de cette expérience, de la rencontre avec tous ces jeunes et également avec des personnes âgées de résidence autonomie qui parfois faisaient partie des projets culturels que nous mettions en place.
En effet, on retrouve ces expériences dans ce premier roman qui a pour titre « Les oiseaux rares ». Alors, dans « Les oiseaux rares », Hugo Pavio, vous nous faites découvrir une jeune femme de 23 ans qui est métisse, hein, elle a des origines algériennes, elle est française. On pourra peut-être revenir sur la notion d'identité parce qu'à un moment, elle part de l'autre côté de la Méditerranée en Algérie avec un vieux compagnon et ami. Et là-bas en Algérie, on lui dit « mais tu es algérienne ?» Et elle réplique « ah non, je suis française ». Mais cette jeune femme a beaucoup de problèmes finalement, de par son adolescence, un milieu familial défaillant, elle n'a pas confiance en elle, elle a avorté en secret, personne ne le sait d'ailleurs, elle a abandonné l'école en classe de seconde et on la retrouve à l'âge de 23 ans, au début de votre roman, dans ce micro-lycée dont vous avez déjà un peu parlé. Alors, on peut dire que c'est presque une héroïne un peu tragique. Je vais vous dire pourquoi j'ai pensé à elle comme une héroïne tragique. Vous écrivez dans le roman qu'elle a, je cite, « le sang pourri d'une hérédité malade ». Alors l'idée d'hérédité malade, ça m'a rappelé pour vous, homme de théâtre, un peu le fatum, le destin qui accable et contre lequel on ne peut pas faire grand-chose. Est-ce que j'exagère un peu en disant que, d'une certaine manière, votre héroïne, Siem, est une sorte de personnage tragique des temps modernes?
Non, c'est pas exagéré du tout. Je trouve que c'est très juste. Oui, absolument. C'est vrai que, si vous voulez, j'écris souvent dans ce livre et dans d'autres livres sur l'influence qu'ont pu avoir les conflits historiques de nos aïeux, mais non pas sur eux qui ont vécu les conflits, mais sur leurs descendants. J'ai découvert... la notion de trouble répercuté qui a été inventée par Bernard Sieg, qui était un psychologue, dans le livre Le silence et la honte, en 1984, qui faisait une étude sur les traumatismes induits par la guerre d'Algérie, non pas sur les appelés du contingent eux-mêmes, mais sur leurs enfants. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et à ce titre-là, si M, bien sûr, trimballe, on va dire, la double histoire tragique entre... la France et l'Algérie.
Alors, c'est une enfant qui, d'ailleurs j'aime beaucoup l'expression, elle a poussé de travers. Il y a aussi toute une réflexion sur l'éducation. Doit-on être sévère? A-t-on le droit de mettre une fessée à un enfant? Alors, Siem, à 23 ans, donc, reprend les études dans ce micro-lycée, accompagné par des enseignants absolument remarquables, un univers que vous connaissez bien, puisque vous-même, vous en avez été un des animateurs, en tant qu'intervenant extérieur, peut-être, pour une approche du théâtre auprès d'un public qui, finalement, a besoin d'être un peu reconditionné, réconforté et fortement encouragé.
Oui, alors la particularité du micro-lycée, je crois que tout à l'heure j'ai dit que c'était une structure associative, ce qui n'est pas tout à fait exact. Mais
ça dépend de l'éducation nationale
ou... Ça dépend de l'éducation nationale, D'accord. Bien sûr. Donc voilà, cette petite correction. La particularité, c'est que les projets éducatifs, les projets culturels sont intégrés et sont très centraux dans leur pédagogie. C'est-à-dire que l'intervenant, parce que moi je ne suis pas enseignant du tout, je le répète toujours, loin de moi cette usurpation, on va dire... en tant qu'intervenant extérieur, artistique, on a loisir dans ce type d'établissement de faire des projets, premièrement sur le long terme, deuxièmement transversaux avec d'autres publics, puisqu'il y a la place, il y a le volume horaire, il y a les financements pour le faire. Et la particularité, ce qui m'importe essentiellement en tant que... Alors j'aime pas trop le mot animateur, parce que je préfère le mot action culturelle qu'animation. Parce que dans action, il y a agir, quoi. C'est de travailler sur l'émotion pour emmener à la connaissance et non pas l'inverse. Et donc l'artiste, son rôle, c'est de, par le ressenti, par l'émotion, de susciter des réactions, de susciter des questionnements, de susciter du cri, de la colère, du pleur, du rire sur des événements parfois tragiques qui plus tard vont être développés en cours. Par les profs d'histoire, par les profs de français, etc. Et donc voilà, la place de l'artiste, de l'intervenant artistique, c'est ça. C'est vraiment d'ouvrir des portes, d'ouvrir des verrous. Et puis après, ce sont les enseignants de leur pédagogie qui s'emparent de ça. Mais nous, c'est vraiment, voilà, c'est ouvrir des portes.
D'ailleurs, Siem et ses camarades vont rencontrer Victor, un auteur et metteur en scène. Ils vont travailler d'ailleurs sur le thème de la migration. C'est un thème un peu complexe, mais les élèves décrocheurs de ce micro-lycée seront amenés à écrire une pièce et bien évidemment ensuite à lui donner vie en la jouant devant un public au théâtre municipal. Vous vous êtes glissé indirectement un petit peu dans ce roman qui est tout de même le fruit d'une longue expérience de ces publics. Voilà, ce sont les élèves décrocheurs, il n'est pas question de prison, mais il y a aussi les personnes plus âgées dans la résidence autonomie dont nous allons parler.
Oui, alors Victor, évidemment, c'est un petit clin d'œil à Alain Hitchcock. C'est Victor Hugo, bien sûr, donc Hugo, c'est moi, ça c'était un petit truc amusant. C'est un personnage qui n'est pas développé, mais en effet, le projet est un petit peu explicité, comme vous venez de le dire. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont rigoureusement exactes dans le roman, puisque la plupart des personnages ont été inspirés de personnages réels, en partie, avec du romanesque par-dessus, évidemment, du conscient, de l'inconscient, tout ce qu'on veut. Et mais par contre, tout ce qui est, on va dire, d'ordre pédagogique, d'ordre précis dans les actions, pas celles de Victor ou d'autres, ça, ce sont des choses tout à fait réelles, en effet. Ouais.
Alors, concernant le micro-lycée, parce que c'est très intéressant, moi, j'avais vaguement entendu parler de cette structure pour remettre un peu sur les bons rails des élèves cabossés par la vie ou par la famille ou pour différentes raisons. Même la société, à un moment, il est même dit que la société est hostile. Alors, j'aimerais bien, Hugo Pavio, que vous expliquiez ce que vous entendez par société hostile.
Eh bien, la société hostile, la société nous impose de réussir. Il faut réussir. Et on est jugé sur notre réussite. Mais à partir de quoi ? Est-ce que c'est une réussite économique ? Est-ce que c'est un épanouissement personnel ? Est-ce que c'est une réussite amoureuse ? Est-ce que c'est une réussite ? Bon, voilà. Il y a ce mot « réussir » et qui est souvent dans les pays, on va dire, occidentaux, riches, qui est réussir socialement, qui est finalement ce mot que je n'aime pas beaucoup, mais qui est d'acquérir l'excellence, de pouvoir, on voit ça avec les élèves, notamment de certaines banlieues, les quotas dans la Sciences Po, etc., etc. Le modèle élitiste universitaire, finalement, ou des études, reste la norme. Et pour moi, ça, c'est hostile. Parce que l'élève, la personne, en tant que... Enfin, voilà. C'est-à-dire que la société considère que les élèves sont des élèves. Dans un micro-lycée, on les considère comme des personnes. Et donc, leur réussite doit partir de leur personnalité et non pas de ce que la société voudrait qu'ils deviennent. Voilà, c'est rapidement, mais c'est ça.
Alors, vous expliquez qu'il y a, au micro-lycée que fréquente votre héroïne Siem, il y a un professeur pour 12 élèves. Il n'y a pas de salle de professeur, c'est une salle commune où les professeurs côtoient les élèves, ils mangent même dans la même salle commune. Et puis, ce propos que je cite, pour ces élèves, donc ces élèves décrocheurs, il est parfois plus difficile de recevoir des compliments ou des encouragements que des reproches et des avertissements. Ce sont vraiment des jeunes gens qui n'ont absolument pas confiance en eux et à qui il faut essayer de montrer qu'ils ont des capacités et des richesses en eux, quoi.
Oui, c'est ça. Moi, j'interviens aussi beaucoup dans les établissements d'enseignement traditionnel. Donc, j'ai pu constater... alors, ce n'est pas du tout une mise en cause des enseignants qui font le travail le mieux qu'ils peuvent, etc. Mais je pense qu'il y a un côté... Dans le système éducatif, il y a quelque chose qui est très archaïque, qui n'est plus adapté, je trouve, à une société moderne, où finalement on gave les élèves de connaissances, ils n'ont pas beaucoup de... Donc il y a la théorie, mais il n'y a pas beaucoup de pratiques, il n'y a pas beaucoup d'épanouissement, on va dire, autre qu'intellectuel. Et en effet, le système éducatif, mais tous les systèmes en général, le système de réussite dont je parlais tout à l'heure, ne fonctionne pas sur un principe de bienveillance, mais sur un principe de compétition. Or, ces élèves-là, particulièrement, sont mis sur le côté de la compétition parce que ils sont considérés, d'un point de vue social, parce qu'ils ont été en échec scolaire aussi, ils sont considérés comme ne pouvant pas être compétitifs. Et c'est une croyance qui est vraiment ancrée en eux. Et donc, c'est vrai qu'un compliment, souvent, ils le prennent pour une moquerie ou pour du cynisme. Or, puisqu'ils pensent, on va dire, a priori, que c'est ce qu'on va penser d'eux. Voilà. Et donc il faut essayer de modifier ça, essayer de partir notamment de leurs points forts et non pas de ce qu'ils considèrent comme leurs points faibles. C'est un petit peu comme dans l'enseignement de l'art dramatique. Dans les pays anglo-saxons, si vous passez une audition et que vous êtes à peu près, on va dire, mauvais partout, mais que vous avez un magnifique sourire, eh bien, le metteur en scène, l'enseignant d'art dramatique, va vous dire « travaille ton sourire ». En France, on ne va pas dire « travaille le sourire », on va dire « ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas ». Eh bien, c'est la même chose pour l'enseignement, il me semble, et voilà.
C'est Hugo Pavio qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre sur Radio. Je rappelle qu'il est à quelques jours de la fin de sa résidence d'écriture à la maison Jules Roy à Vézelay, tout près de la basilique Sainte-Marie-Madeleine. Et puis, dans les murs de cette maison qu'avait acheté en 1978, si je ne m'abuse, Jules Roy, qui est mort il y a 21 ans maintenant, c'était en 2000. Hugo Pavio est donc avec nous pour son premier roman paru en 2020 aux éditions du Seuil et qui a pour titre Les oiseaux rares. Nous nous retrouvons d'ici quelques minutes, le temps pour nous de marquer une première virgule musicale.
Mistakes I can't erase, like every promise you will say, I said so, cause you said so. Running but we're still in place, couldn't look you in the face when I messed up, and it's messed up. Didn't wanna talk to you, so instead I ran outside, making noises through the night, and it's selfish but I didn't wanna tell the truth, cause I couldn't stand the fight, but now it's empty inside. Do you ever miss the cold? So instead I ran outside, making noises through the night, and it's selfish but I didn't wanna tell the truth, cause I couldn't stand the fight, but now it's empty inside. Do you ever miss the cold?
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Les oiseaux rares, c'est le titre du premier roman de Hugo Pavio qui, depuis le 1er septembre dernier, est à Vézelay à la maison Jules Roy, écrivain, dramaturge, invité par le conseil départemental de Lyon et la maison Jules Roy pour une résidence d'écriture qui vous a permis, Hugo, d'écrire beaucoup dans une ambiance apaisante, reposante. Je voudrais qu'on revienne à vos oiseaux rares, donc titre de votre roman. On a beaucoup parlé de ce micro-lycée, de Siem, cette jeune métisse de 23 ans qui est au cœur de votre roman. On a parlé d'éducation de ce micro-lycée. Et finalement, le titre « Les oiseaux rares », c'est un clin d'œil aussi à l'envol que l'on veut donner à ces élèves décrocheurs, notamment de ce micro-lycée. Mais nous avons tous besoin de prendre notre envol. La plus grande difficulté, c'est de trouver une branche sur laquelle on peut se poser parfois durablement.
Oui.
Et vous aussi, l'artiste prend son envol, mais...
Ah, mais tout à fait. Moi, j'ai pris envol avec mes personnages. Hein. Mais c'est vrai que l'oiseau rare, l'expression, c'est une expression qu'on n'utilise plus tellement, j'ai l'impression. L'oiseau rare, c'est un oiseau rare, c'est une personne pleine de qualités. Donc l'objectif, c'est à ne pas confondre avec drôle d'oiseau, qui est une personne un peu étrange. Un oiseau rare, donc le titre, c'est que finalement, chacun de ces cinq personnages principaux vont, au début ils cheminent tout seuls, ils sont isolés, ils sont dans leur tête, ils n'y arrivent pas, ils sont en boucle, voilà. Et puis en se rencontrant, en se croisant, ils vont... grâce et via l'autre, via le regard de l'autre, via l'investissement de l'autre, ils vont apprendre et ils vont à déceler l'oiseau rare qui est en eux. Parce que eux, ils pensent qu'ils sont des albatros qui ont du mal à décoller. Et ils vont découvrir qu'ils sont des oiseaux rares. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Et c'est vrai que bon, moi, je suis très fan des oiseaux de façon, je veux dire, plus naturaliste. Je ne suis pas spécialiste, mais enfin, voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et oui, la notion d'envol, bon, c'est un classique dans la littérature, mais c'est l'idée d'aller plus haut, plus loin. Par exemple, à un moment, Hélène, la prof de français, a un échange avec Siham, et Siham choisit d'être une oie à tête barrée. Alors, l'oie à tête barrée, c'est un oiseau assez pataud, assez, mais c'est un des oiseaux qui vole le plus haut dans le ciel au monde. Et ben voilà, on peut être très lourd physiquement, on peut avoir du mal à déployer ses ailes et finalement voler 10 fois plus haut que les autres. C'est un petit peu cette idée.
Autre oiseau rare dans votre roman, c'est le pendant mais plus âgé de Siham, c'est Émile, dit Zapata, que Siham rencontre parce qu'ils partagent et vivent dans la même résidence, une résidence autonomie où la professeure de français a trouvé un petit studio pas trop cher pour Siham, qui est un peu fasciné, attiré en tout cas par ce vieil homme de 82 ans, Émile, qui comme elle, il lui dit, puisqu'ils vont finir, d'abord Siham l'observe beaucoup avec curiosité au moment des repas, à la résidence autonomie, et puis ils vont finir grâce à Internet. Mais c'est parce que notre Émile, 82 ans, a acheté un ordinateur portable et a besoin de quelques coups de main pour surfer, donc il sollicite la jolie Siham, et il lui dit « Moi aussi, je suis métisse, moitié vivant, moitié mort. » Car c'est un homme qui finalement est un peu dans le constat, le bilan de sa vie, qui est finalement aussi difficile que les difficultés que Siham rencontre, elle, à entrer et à trouver sa place dans la société. C'est un peu cela.
C'est exactement ça. C'est les deux revers d'une même pièce. Hein. C'est le côté pile et face. Parce que, d'ailleurs, ces deux forts en gueule, ces deux forts caractères, deux ours aussi. Hein. Mais c'est vrai que Siham, elle, croit qu'elle n'a pas d'avenir. Et Émile, lui, en regardant en arrière... Et quand il regarde sa vie, il considère, comme beaucoup de gens, hélas, parfois dans ce genre de résidence, qui sont des gens pauvres socialement et qui sont justement aussi un petit peu rejetés, laissés sur le carreau par la société. Eh bien, il considère que sa vie n'a pas d'intérêt, n'est pas digne d'intérêt, ni d'être racontée, ni d'être... voilà, donc... Elle pense qu'elle n'a pas de vie. Lui, il pense presque entre guillemets qu'il n'en a pas eu. En tout cas, qu'il est passé à côté. Voilà. Et ensemble, ils vont s'apprendre, elle, à se projeter dans une vie possible et lui, à revisiter la sienne en changeant de regard et en voyant ce qu'il y a pu y avoir dans sa vie, sans tout révéler, mais ce qu'il y a pu y avoir de flamboyant aussi.
Il y a, pour Émile, alias Zapata, 82 ans, il y a tout de même... ce propos que je cite « Vieillir est un choix. Soit on choisit de vivre dans le passé et on finit par redevenir un enfant dont il faut s'occuper, soit on décide d'aller de l'avant et de se rendre utile. »
Oui, c'est ça. Ça me fait penser à une anecdote. Je crois que je l'ai dit dans le roman, je ne sais plus, mais il y avait dans un foyer René, qui est on va dire la personne principale qui m'a inspiré le personnage, il n'y a pas que lui, mais notamment lui. Le premier atelier que j'avais fait, je rentre avec, je vois les personnes âgées dans la salle. Ils étaient mélangés donc avec les élèves. Et puis, je m'adresse à eux et en les appelant les seniors, parce que c'est le terme qu'on m'avait appris, le terme qu'on emploie dans la société. Et puis bon, il se passe, je vois que il tique, ça lui plaît pas, bon bref. Et puis tout d'un coup, il lève la main, il me dit « Goût, Hugo, il y a un truc qui va pas du tout ». Je dis « Ah bon ?» Il dit « Oui, je veux pas que tu nous appelles les seniors, pour moi c'est insultant ». Je dis « Ah bon ? Comment ça ?» Il dit « Ouais ». Je dis « Mais tu veux qu'on t'appelle comment ?» Alors il dit « Bah moi je suis un vieux ». Je dis « Ah d'accord, mais moi il me semblait que c'était plutôt le mot « vieux » qui était, on va dire, péjoratif ». Il dit « Non, parce que dans « vieux », il y a « vie ». Alors j'y tiens. Et donc c'est vraiment ça. Ils sont encore vivants, et comme vous disiez, bah, ils ont encore, même s'il leur reste un an, deux ans, une semaine, dix ans, peu importe, bah, ils ont encore des choses à vivre, et ils ont encore des projets à mettre en œuvre. Donc voilà, c'est ça, jusqu'au bout, on est toujours là, quoi.
Il y a beaucoup de jeux de miroir dans votre roman, parce que finalement, Siem voit un peu son avenir à travers la vie... assez riche quand même de Émile, quand bien même il a tendance à penser que sa vie est creuse, vide, voire ratée. Et puis il y a un jeune homme, alors qui lui est de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, dans un pays qui connaît une grave crise économique, et aussi dominé par des injustices assez criantes. C'est le jeune Achir, donc jeune Algérien, avec des dreadlocks qui ressemblent à Corto Maltese, qui lit surtout des bandes dessinées, qui lui aussi est un cabossé de la vie, qui a le même âge pratiquement que Siem. Il travaille comme apprenti avec son oncle et il rêve de venir en France en obtenant notamment un visa, les fameux visas qui sont donnés au compte-gouttes. Et finalement, votre roman, on peut dire que on pourrait parfois penser que c'est lourd, que ça nous renvoie aussi, parce que ça nous fait beaucoup réfléchir. Hein. On pense à sa propre existence, à son adolescence aussi, en se disant « ne suis-je pas passé à côté de certaines étapes ou moments forts de ma vie ?» C'est un roman qui, finalement, n'est pas si léger que ça, qui a une charge, j'allais dire, presque dramatique.
Mais tout à fait. Je crois que le contexte du roman est très... grave, mais par contre, les personnages sont pleins de lumière et ils vont vers la lumière. Il y a une phrase de Baudelaire qui m'avait beaucoup marqué dans un poème qu'il avait fait sur Paris. J'étais en classe de seconde ou de première, je ne sais plus, et il y avait ce vers qui m'est toujours resté. Il parlait de la ville de Paris et il disait, c'est un vers qui est connu, mais il disait « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or ». Ben ça m'est toujours resté. C'est vrai qu'en effet, même dans des pays en guerre, même quand il y a des décès, même quand il y a de la maladie, même quand il y a toujours la vie qui est là. Et mes personnages, dans mon théâtre ou dans mon œuvre romanesque, sont toujours des personnages qui vont vers la lumière. Même si c'est un petit point tout à fait au loin, le petit rayon vert, ben ils le guettent, ils attendent qu'il arrive.
Il faut choisir la lumière parce que certains, malheureusement, se tournent aussi... vers le côté obscur, enfin je le dis sans jeu de mots, mais
non, tout à fait.
Malheureusement qui ne vont pas vers la lumière. Et la culture permet aussi d'aller vers la lumière.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a aussi une culture ambiante de propagande publicitaire qui voudrait que, avec toute cette économie autour des livres de bien-être, par exemple, etc., qu'il y en a qui sont formidables, hein, oui. Mais on voudrait nous faire croire que la vie est magnifique, heureuse, formidable, et qu'il faut réussir. Et que si on n'a pas réussi, finalement, eh bien, c'est qu'on est en dehors de la vie, etc. Or, selon moi, accepter, prendre conscience, et puis le voir comme tel que la vie, c'est dur, point, eh bien, ça la rend moins dure. Parce qu'on n'est plus dans un mythe de devoir penser que sa vie est en deçà de ce qu'elle devrait être. Voilà. Donc, accepter la part dure... Moi, je ne suis pas manichéen, je pense que les choses ne sont pas toutes noires ou toutes blanches. Je pense que le monde est gris, finalement, les êtres humains sont gris. Il y a un peu des deux couleurs. Et pour moi, gris, ce n'est pas une couleur terne.
Donc vous êtes plus dans la nuance que dans les extrêmes.
Bien sûr. Oui, tout à fait.
Hugo Pavio, si vous le voulez, on marque un nouvel intermède musical. Je rappelle que nous avons le plaisir de vous rencontrer au moment où vous terminez une résidence d'écriture de 2 mois à la Maison Jules Roy à Vézelay. Vous êtes connu comme homme de théâtre, dramaturge, donc une importante œuvre théâtrale disponible notamment aux éditions de l'Amandier. Et puis surtout, aujourd'hui, nous mettons en lumière pour rejoindre notre conversation Les oiseaux rares, votre premier roman paru en janvier 2020 et qui est toujours disponible aux éditions du Seuil. On souffle quelques minutes et nous vous retrouvons avec notre invité d'ici un court instant.
Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie mon panel de prolo. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années. D'événements imparfaits, un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur. Confiner l'espoir, pour continuer d'y croire, je t'envoie un faire-part, le faire-part du mariage entre nostalgie et destin, quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin.
Je veux retrouver l'attrait de notre vie d'après, il est temps d'entamer. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées?
Je la mêle au présent, c'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Hugo Pavio, auteur d'un premier roman paru l'an dernier aux éditions du Seuil et intitulé « Les oiseaux rares ». Alors finalement, dans ce roman, bien sûr, on rencontre un grand nombre de personnages qui effectivement tous choisissent d'affronter la vie, mais en prenant le chemin de la lumière, d'essayer de sortir du tunnel, justement, pour rejoindre la lumière. Il y a plusieurs thématiques dans le roman. Il y a tout de même une dénonciation de la religion. Que ce soit Zapata... alors, Zapata, donc Émile, notre homme... de 82 ans, qui côtoie la jeune CM de 23 ans, Zapata dit « Au diable les religions ». CM, d'ailleurs, elle a un modèle, elle dit « Une de mes sœurs a épousé un de ces connards d'intégristes. Avec ses voiles, elle ressemble à un Kinder Surprise ». Et puis, même Rose, la directrice de la résidence autonomie où loge CM et Émile, est en colère après Dieu. Alors, c'est très drôle, elle est en colère après Dieu parce qu'il n'existe pas, selon elle. Vous êtes très critique à l'égard de religion. Alors, c'est un roman, mais j'ai l'impression que Hugo Pavio, lui aussi, n'est pas forcément très frottée de religion quelle qu'elle soit. Ou alors, vous avez choisi la religion de la vie.
Ah, c'est une jolie expression. Oui, non, alors je pense pas qu'il y ait de charge contre la religion. Moi, je viens d'un milieu catholique, à peu près pratiquant, on va dire. Je ne le suis pas moi-même et je suis, on va dire, entre athée et agnostique, plutôt athée. Mais j'ai beaucoup d'amis qui sont croyants, de plusieurs religions d'ailleurs, donc ça, c'est pas quelque chose qui me dérange. Par contre, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de respect pour toutes les croyances, quelles qu'elles soient, animistes, religions monothéistes, peu importe. Par contre, je suis souvent un petit peu fâché avec, on va dire, les systèmes qui gèrent ces croyances. Par exemple, je suis fâché avec l'Église, mais pas avec la religion catholique, par exemple. Il y a qu'à voir l'actualité, par exemple, en ce moment.
Alors, vous parlez du rapport Sauvé dénonçant la pédophilie Sauvé, dans l'Église catholique en France. Hein,
oui, par exemple,
franco-française.
Là, franco-française, oui. Ou par exemple des scandales qu'il y avait eu avec l'argent de l'Église catholique pendant le Troisième Reich, etc. L'Église catholique qui avait exfiltré beaucoup de dignitaires nazis vers l'Amérique du Sud, enfin, et ainsi de suite.
Oui, une position ambiguë de l'Église pendant la Seconde Guerre mondiale. Compliquée, voilà. En fait. Oui.
Très ambiguë. Donc, mais il n'y a pas que l'Église catholique. Il y a des positions ambiguës dans l'islam aussi, chez les juifs aussi, enfin, etc. Donc voilà, moi je suis plutôt en désaccord avec les institutions qui gèrent les croyances, plutôt qu'avec les croyances elles-mêmes, qui sont toutes respectables, bien évidemment.
Hugo Pavio, j'aimerais qu'on parle un peu de l'Algérie, parce que on va pas trop raconter le roman, mais Siem, on peut juste dire que Siem est l'oiseau rare Émile alias Zapata vont avoir la chance de se rendre en Algérie. On n'en dit pas plus. À la fin de votre roman, vous remerciez vos anges gardiens en Algérie. C'est un pays que vous connaissez bien, l'Algérie. Vous y avez des amis, des connaissances?
Alors, maintenant, oui. Avant de l'écriture du roman, non. J'ai écrit ce roman dans le cadre d'une résidence d'écriture chapeautée par la région Île-de-France, un programme qui s'appelle Résidence d'écrivain, et j'étais à l'époque auteur associé, artiste associé du Théâtre Jean Villard à Vitry-sur-Seine, et je suis allé en Algérie dans le cadre de cette résidence, en fait, pour préparer le roman. Et j'ai emmené avec moi une ancienne élève du micro-lycée de Vitry, qui a les mêmes caractéristiques que Siem, c'est-à-dire qu'elle est franco-algérienne, elle ne voulait pas entendre parler de l'Algérie, elle ne connaissait pas l'Algérie. Et donc je l'ai observée, alors cette fois-ci d'un point de vue un petit peu journalistique, on va dire, je l'ai observée rencontrer la moitié d'elle-même. Et ça m'a été fort utile, bien sûr, pour le roman. Et alors, j'avais une image, je dois le confesser tout à fait, de l'Algérie, un petit peu stéréotypée, on va dire, un peu, encore un peu dans la décennie noire, des choses comme ça. Or, j'ai découvert que les deux tiers de la population a moins de 25 ans, par exemple, que c'est un pays fort accueillant, contrairement à ce qu'on peut croire. Et que donc la majorité de la population ne demande qu'à s'ouvrir, qu'à accueillir du tourisme, etc. Simplement, bon, c'est un mystère pour personne, il y a un régime, on va dire avec des petits guillemets autoritaires, où la vie associative est compliquée, les initiatives sont compliquées. C'est ambigu parce que c'est pas... mettre le mot dictature, c'est un peu compliqué aussi. C'est un problème.
Mais c'est une démocrature, comme on dit aujourd'hui.
Je sais pas comment on peut l'appeler. En tout cas,
il y a le passif de l'histoire coloniale française tout de même. Depuis 1830, la France, jusqu'en 1962, il y a eu présence française en Algérie qui n'a pas laissé que des bons souvenirs des deux côtés.
Des deux côtés, bien sûr. Et puis, beaucoup d'acteurs du conflit sont encore vivants, donc ça reste un tabou, c'est compliqué. Mais, donc, j'ai eu plusieurs anges gardiens, comme vous disiez, puisqu'on retrouve les ailes, tiens, comme les oiseaux chez les anges, et qui m'ont véhiculé, fait découvrir le pays à Oran, à Alger, qui m'ont montré des choses qu'on ne montre pas forcément.
Et alors, dans votre roman, Hugo, justement, de superbes pages d'une Algérie lumineuse, d'une richesse. Alors, bien sûr, il y a des mosquées, hein, mais même les mosquées fascinent Siem et Zapata. Et vous êtes aussi, j'ai l'impression que vous renouez sur le passé d'un écrivain que vous admirez, que vous connaissez bien quand on parle d'Algérie. Alors, c'est pas Jules Roy, c'est...
Vous pensez à Camus.
Absolument.
Oui, tout à fait. Oui, je suis un grand lecteur de Camus. Mais c'est vrai que j'ai une particularité aussi dans mon arbre généalogique, c'est que je suis d'un père français mais d'une mère espagnole, andalouse. Or, l'Andalousie a été sous domination arabe pendant 9, 10, 11 siècles, je ne sais plus exactement. Donc on va dire que je ne suis pas mathématicien, mais qu'il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait des petites résurgences ou berbères ou arabes dans le sang qui coule dans mes veines. Quelque chose que j'ai toujours senti, que j'ai toujours... D'ailleurs en Algérie, on me prenait pour un kabyle.
Ouais.
Et puis j'étais très à l'aise, il y a beaucoup de choses qui me paraissaient tout à fait naturelles. Mais bon, en Espagne, on a par exemple le flamenco, le cante rondo, tout ça, ce sont des. C'est le monde arabe qui parle. Hein. Toutes les églises en Andalousie sont des églises maures, enfin beaucoup. L'architecture. Et donc j'ai une part d'arabe en moi finalement, qui est inconnue, puisque ça remonte très, je parle au conditionnel, mais très loin. Donc voilà, il y a quelque chose de chez Camus, chez Jules Roy aussi, n'étant pas pied noir, mais que je comprends, que je ressens et que j'ai voulu en effet aller vérifier sur place aussi.
Vous dites à un moment dans le roman que dans la langue arabe, il n'y a pas de terme pour désigner l'adolescence.
Non, c'est exact, oui. Oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Et il n'y a pas de mot précis qui veut signifier adolescence. Alors, il y a plein de mots qui parlent de la jeunesse, il y a l'enfance et il y a l'âge adulte, grosso modo. Alors, je ne suis pas spécialiste du tout. Hein. J'avais fait beaucoup de recherches au moment où j'ai écrit le roman. Tout ne m'est pas resté. Mais il n'y a pas de terme précis, non, en effet.
Alors, en Algérie, bon, il y a ce temps de découverte sous un soleil magnifique, une lumière éclatante, un peuple algérien, effectivement, dans le roman que vous présentez comme extrêmement accueillant et généreux. Alors, ne parlons pas aussi des odeurs et des plats que Siem découvre. Elle renoue avec une part de ses origines. Et puis, il y a ce jeune Algérien qui, effectivement, est en quête d'amour aussi, et Siem aussi recherche l'amour. Vous vous intéressez à l'adolescence, à l'amour, et alors Siem à un moment, alors elle est en France, elle fait l'amour à un jeune black qui est bien habillé, et elle a une attitude de femme très soumise qui a envie de se faire humilier parce qu'elle demande à ce jeune black de l'insulter pendant le rapport sexuel. Alors elle connaîtra ensuite une autre histoire d'amour qui débouchera sur une maternité. Finalement, ce qui est extrêmement apaisant à la fin du roman, alors la fin est duel, hein, mais Siem est promise, me semble-t-il, à un bel avenir, d'autant plus que elle porte en elle, dans sa chair, je dirais, le fruit d'une belle rencontre en Algérie. Et puis, elle porte aussi, vraisemblablement, des projets littéraires à venir. Parce qu'elle deviendra peut-être écrivain.
Oui, absolument. Je ne sais pas si elle le deviendra, mais elle ressortira peut-être dans un futur roman. Mais oui, elle est passionnée par la littérature. C'est ce que lui a transmis Hélène, la professeure de français. Comme ce que je racontais moi tout à l'heure avec Baudelaire, c'est pareil, elle prend une petite phrase par-ci, une petite phrase par-là, et puis c'est vraiment de se dire, tiens, ça c'est moi qui aurais pu le dire, ou ça c'est exactement ce que j'ai vécu, ou tiens, et donc se rendre compte que la littérature, finalement, d'autres ont pu mettre des mots sur ce que nous, on n'arrive pas à exprimer. On a tous eu, un ou deux enseignants comme ça, peu importe la matière d'ailleurs, qui nous auront accroché à quelque chose ça nous a parlé différemment. Ça nous a parlé de nous, finalement, et non pas de... pour moi, un enseignant de qualité de français, c'est celui ou celle qui arrive à faire, via les textes des auteurs, à parler des élèves,
oui,
en tant que personne. C'est ça qui... Et oui, finalement, la fécondité trouvée chez Siem, elle se passe en Algérie, pas en France. Ça, c'est évident que le fait de retrouver ses racines, ou de trouver ses racines, un arbre, s'il n'a pas de racines, il ne peut pas avoir de branches. Donc, c'est ça. c'est cette nécessité d'aller se... comment dire ? J'allais dire de revenir au port pour pouvoir repartir après vers le large. Mais voilà, c'est un port qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle a en elle malgré tout. Moi, je suis persuadé quand même que les gens qui ont... Moi, ça a été mon cas avec l'Algérie aussi, puisque j'avais un père qui était appelé du contingent. Donc, il y a eu beaucoup de silence, beaucoup de tabous à la maison. Je dis toujours, il a importé le conflit au dîner, à la maison. Et donc, c'est le cas de beaucoup d'enfants d'appelés, par exemple, ou de militaires d'actives. Eh bien, je ne sais plus ce que je disais. Tiens, je parlais de branches, il faut que je me raccroche aux branches.
Oui, vous disiez effectivement revenir au port pour repartir ensuite, et vous parliez justement de votre père appelé du contingent qui donc avait été mobilisé la guerre d'Algérie.
C'est ça. Je pense que le travail de l'auteur en particulier, et c'est ce que fait Sim sans s'en rendre compte, et c'est pour ça qu'elle va peut-être devenir écrivain, c'est de remplir les trous, c'est de mettre des mots quand il y a des silences. Pour moi, l'écrivain est un trait d'union, en fait. C'est un trait d'union entre des éléments, des personnes, des... Voilà. Et c'est vrai que Sihem, eh bien, elle devient un trait d'union, bah, d'abord entre les deux parties d'elle-même, et puis une fois cela fait, eh bien, elle peut devenir un trait d'union, au sens plus large du terme, avec les autres. Une fois que c'est fait avec soi-même, eh bien, finalement, pour les lits d'amour, est-ce qu'on peut aimer les gens si on ne s'aime pas soi-même ? C'est compliqué.
Oui. Je rebondis sur une expression que vous avez dite il y a 45 secondes. Vous dites être auteur, c'est mettre les mots dans les trous, ou c'est aussi mettre les lettres dans les cases. Je pense à l'allusion aux mots croisés d'ailleurs. Et c'est amusant aussi, vous. Et je ne sais plus si c'est Rose, c'est Rose, hein, qui est une fan de mots croisés et qui va un jour au cimetière et qui dit c'est surprenant, un cimetière, ça ressemble à une grille de mots croisés. J'ai trouvé cette image assez intéressante. Balzac allait dans les cimetières pour y trouver notamment des noms de personnages. Et vous, Hugo Pavio, vous allez parfois dans les cimetières y chercher quelque chose ? Et si oui, quoi donc ?
Tout à fait. Depuis que je suis ici à Vézelay, j'ai dû aller une quinzaine de fois au cimetière, par exemple. Alors, il est petit, hein. Mais alors, je ne sais pas forcément ce que j'y cherche, mais probablement des... C'est pas forcément des choses, on va dire, logiques ou évidentes, mais parfois, en regardant une tombe, en lisant un nom, en lisant les dates de naissance, de décès, eh bien, on rencontre un petit peu, d'une certaine façon, ces personnes, je trouve. Enfin, en tout cas, être auteur, c'est aussi être à l'écoute, hein. C'est être un petit peu une antenne parabolique et essayer d'attraper tout ce qui peut s'attraper. Et enfin, s'il y a des cimetières, c'est bien qu'il y a des gens qui ont bien besoin d'y aller pour se recueillir. Donc sinon, il n'y aura pas de cimetière.
Alors, le temps passe très vite avec vous, Hugo Pavio. 2 mois de résidence d'écriture sur la colline éternelle à Vézelay, dans la maison Jules Roy. 2 mois d'écriture, prochain projet de roman. Et comment vous l'avez vécu, ce temps privilégié à Vézelay ? Qu'est-ce que vous retiendrez parmi les plus beaux souvenirs ou les plus belles rencontres ?
Eh bien, je l'ai très bien vécu. Je suis tout à fait navré et peiné que ça se termine. Mais il faut une fin à tout, et chaque fin est un début d'autre chose. La particularité de cette résidence, j'ai déjà fait plusieurs résidences, mais c'est que on est accueilli chez un écrivain. Donc il y a quelque chose encore en plus par rapport à une résidence, on va dire, plus classique. C'est-à-dire que forcément, il est présent. Ses idées politiques sont présentes. Moi, personnellement, je me suis documenté avant, puis pendant la résidence. J'ai regardé des vidéos d'interviews de Jules Roy. J'ai vu le salon en bas, la salle d'expo, il y avait le feu dans la cheminée, et puis on le voit en famille, etc.
Et vous savez, Hugo, que nous sommes dans la pièce où Bernard Pivot a enregistré une interview avec Jules Roy. Nous sommes pratiquement à leur même place.
Absolument, là. Que j'ai vu d'ailleurs. Et donc, voilà, ça a une incidence, puisque en réfléchissant sur son œuvre, eh bien, fatalement non, c'est pas une fatalité, mais eh bien, on réfléchit sur la nôtre. Donc, il y a une correspondance entre Jules Roy et les personnes, j'imagine que je suis pas le seul, entre les auteurs qui sont venus en résidence. Et puis, en dehors de Jules Roy, vous en parliez tout à l'heure dans au cours de l'interview, le rapport à la religion, parce que c'est une ville très religieuse, c'est un centre, ça a été pendant 3 siècles, 4 siècles, je ne sais plus, un vraiment des grands centres européens de départ vers Compostelle et puis de réunion de catholiques. Oui. Mais même si on n'est pas croyant, même si on n'est pas, j'allais dire mystique, mais oui, peut-être, eh bien, il y a quand même dans cette ville une spiritualité très particulière. Et c'est vrai ce que dit Jules Roy. Quand je suis arrivé en voiture, j'ai vraiment eu l'impression, alors j'avais pas lu ce qu'en disait Jules Roy, d'arriver sur une île et non pas du tout sur une colline. Et c'est vrai que quand on voit le matin le nuage de brume, le nuage de la mer de nuages, on a l'impression d'être sur un bateau. Et donc peut-être que je vais repartir en ayant cette impression, non pas d'avoir été sur une colline, mais j'ai l'impression d'avoir été sur une île. Voilà. C'est vraiment le sentiment très fort que je retiens. Ça, c'est la première chose. Et puis, probablement aussi, la plus belle rencontre, il y en a eu beaucoup, donc je n'ai pas envie de choisir, mais c'est peut-être avec une part de moi-même plus apaisée que quand je suis arrivé. Je peux dire ça comme ça, parce que... ici, le temps est suspendu. C'est pas... Bon, alors moi, j'habite Paris, donc forcément, il y a une grande différence avec l'agitation parisienne. Mais cette spiritualité, ce côté, c'est la nature telle qu'elle est, les balades qu'on fait, ce temps qui s'étire, qui est plus long qu'ailleurs, je trouve, eh bien, ça donne une... Ça procure une forme de sérénité, ça procure une... Donc là, je sais que je vais retourner vers quelque chose de plus sportif, plus agité, plus... Voilà. Et des parenthèses comme ça, ça fait du bien. Les résidences, ce sont des moments où on écrit des textes, mais ce sont aussi, à chaque fois, forcément, des rendez-vous avec soi-même. Puisqu'on n'est plus dans la famille, on n'a plus les préoccupations quotidiennes, on n'a plus tout ça. Et donc, forcément, on va se nourrir d'autres choses et on découvre des choses sur soi-même à chaque fois.
Rapidement, Hugo Pavio, vous nous avez dit que vous aviez été dans un moment suspendu et privilégié, notamment pour l'écriture. Quand vous retrouve-t-on en librairie avec un prochain roman ou texte théâtral ?
Eh bien, alors je ne sais pas. Alors ce sera du roman. Hein, puisque j'en ai terminé un et à peu près, qui est en lecture. Et puis, j'ai bien avancé ici sur un troisième. Donc, je ne sais pas encore, parce que je suis en... Bon, celui-ci n'est pas terminé. Et puis, l'autre, je suis un petit peu en retravail. Allez, on va dire une petite année, ce serait pas mal.
En tout cas, Hugo Pavio, je recommande. Les oiseaux rares, on a essayé... de donner quelques aspects du roman sans trop tout dire, parce qu'il faut laisser un petit peu de découverte et de plaisir aux futures lectrices et lecteurs. C'est un roman lumineux, comme le précise la quatrième de couverture, et puis c'est un roman aussi miroir qui nous montre qu'il y a des humains qui essaient de s'en sortir parce qu'ils ont subi une vie de cabossé, ils n'ont pas eu forcément toujours les mêmes chances que nous. Et il y a de l'espoir, il y a une dureté, une gravité, gravis au latin au sens de lourd, il y a ce poids, mais il y a aussi des moments de légèreté et il y a aussi de la confiance et de l'espoir dans ce roman. Oui. Je l'ai ressenti ainsi avec beaucoup de plaisir, Hugo Pavio.
Oui, je crois que c'est tout à fait ça me convient très bien. L'espoir, oui. Alors, l'espoir, pas l'attente, parce que l'attente, c'est quelque chose de passif pour moi. Enfin, c'est une vision personnelle. Tandis que l'espoir, ça me convient bien. L'espoir peut arriver. On peut passer sa vie à attendre et puis il n'y a rien qui vient, en attendant Godot.
C'est ça, je pensais, exactement.
Voilà. Tandis que l'espoir, c'est plus positif. Alors oui, ça me plaît bien. Après, c'est une phrase que tout le monde connaît, mais qui est la phrase de Machado, qui est vraiment pour moi très importante, qui disait « il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant ». Et je crois que s'enlever la pression de la destination, c'est... justement acquérir une forme de sérénité, et c'est ce que j'ai expérimenté, éprouvé encore plus à Vézelay. Donc voilà, ce sont des personnages qui après de l'immobilité sans passer en mouvement.
C'est ça, il y a de l'action. Ils sont dans l'action, c'est et ça. Prennent leur destin en main. C'est-à-dire qu'au début, je disais que l'héroïne était un peu une héroïne tragique des temps modernes. Finalement, il faut nuancer parce que quelque part, elle prend son destin, j'allais dire un peu à la manière de René Char, elle le regarde en face et elle avance aussi parce qu'elle est entourée des bonnes personnes qui la guident et qui sont un peu des béquilles pour elle, un peu mutilées de l'adolescence.
Oui, exactement. Mais c'est marrant parce que ça me, par association d'idées, je pense à quelque chose qui va vous paraître étonnant, mais ça me ramène au Seigneur des Anneaux de Tolkien, parce que ce petit personnage, Frodon, le petit hobbit, là, qui doit vaincre les forces du mal, c'est tout à fait impossible, c'est David contre Goliath. Mais par contre, avec la communauté de l'anneau, avec les 9 personnages qui vont se réunir, eh bien, ça devient possible. Alors, c'était une lecture de jeunesse qui m'a beaucoup marqué. Et il y a un petit peu de cet aspect-là, c'est-à-dire que, j'enfonce une porte ouverte en le disant, mais enfin, tout seul c'est difficile, à plusieurs c'est plus facile.
Oui. Ce sera un joli mot de conclusion. Merci Hugo Pavio de nous avoir consacré du temps. Et puis merci pour votre roman, Les oiseaux rares, que je recommande. Voilà une idée de cadeau peut-être que l'on peut mettre sous le sapin de Noël. Les oiseaux rares, premier roman d'Hugo Pavio, disponible en librairie aux éditions du Seuil. Bonne fin de... Je sais que... Il ne reste plus que quelques jours, que les heures sont comptées
quelques
avant
jours.
De quitter la colline de Vézelay. Je rappelle que pour celles et ceux qui ont raté le début de notre émission, ils la retrouvent en podcast sur le site d'archives yannickpetit.fr. Et puis, prochain rendez-vous de Wagon Livre, samedi prochain, 6 novembre à 11h, pour une émission consacrée à la Grande Guerre avec Jean-Charles Gibault, qui est professeur d'histoire à Avallon. Encore merci, Hugo Pavio.
Merci à vous.
Bon congé de fin de semaine. Et puis, on attend le prochain roman avec plaisir et curiosité. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à samedi prochain.